France Inter.
Et il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
C'est la rentrée, là, pour le coup, tout le monde est d'accord, la rentrée de janvier, une rentrée avec à la tête du ministère de l'Éducation nationale, une Elisabeth Borne qui est aussi numéro 2 du gouvernement, ce qui sous-entend le poids donné à l'éducation dans ce gouvernement Bayrou, constitué donc juste avant Noël. Priorité, comme à chaque fois, vous me direz, mais pourquoi faire ? Sixième ministre en 2 ans et demi, cinquième ministre de 2024, dans un gouvernement qui reste en sursis, suspendu au budget, mais il y a une ministre, alors une ministre, pourquoi faire ? Et c'est ce que nous allons interroger ce soir. Vous allez nous les donner, vous, vos priorités pour vos enfants ou pour votre classe. Sur quoi la ministre va-t-elle devoir se battre ? Nous reviendrons ce soir sur ces 4000 postes destinés à être supprimés dans le budget précédent. On a entendu ici même, sur France Inter, le ministre de l'économie laisser une porte entrouverte. À quoi faut-il renoncer ou pas ? Doit-on, peut-on amender à minima le fameux choc des savoirs, le choc des savoirs 3 en quelque sorte, après le 2 de Anne Genetet, les fameux groupes de besoins dont on ne doit pas dire groupe de niveau. Donc, est-ce que c'est le choix des enseignants et de chefs d'établissement d'y renoncer totalement ? Est-ce que les mises en place en 6e s'inquiètent, permettent déjà de livrer quelques conclusions ? Est-ce que l'extension de ces groupes de besoins a du sens ? Comment enrayer aussi la crise du recrutement ? Les concours ramenés à Bac+3 au lieu de Bac+5, c'était une idée renvoyée désormais au calende grec avec un point d'interrogation, parce que j'en sais rien, mais est-ce qu'on peut au moins discuter à partir de ça ? Que faut-il changer ? Nous évoquerons aussi, et peut-être, et si vous le souhaitez dans vos questions, le fameux texte sur l'éducation affective et sexuelle qui est resté suspendu au-dessus d'une polémique sur son contenu, mais qui devrait être mis sur la table des instances de l'éducation nationale dès ce mois-ci. C'est ce que la ministre a annoncé aujourd'hui même. C'est la rentrée, une nouvelle ministre de l'éducation nationale. Mais pourquoi faire ? C'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Isabelle, vous êtes à Caen et vous êtes la première. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Isabelle.
Bah écoutez, voilà, je suis enseignante de lettres depuis de nombreuses années. Voilà, j'ai eu beaucoup de collègues, d'amis enseignants. Il faudrait revenir à des choses un petit peu fondamentales. On se plaint que le niveau des élèves, des petits élèves français dans les matières fondamentales baisse par rapport donc aux résultats obtenus dans d'autres pays. Eh bah écoutez, je crois qu'aussi il faudrait faire un petit peu la trêve des réformes à tour de bras. Le problème n'est pas dans, un problème vraiment de pédagogie spécialement. Je crois qu'il faudrait revenir à des fondamentaux, à savoir un élève, ça veut dire s'élever. Et donc, pour apprendre, il faut aussi apprendre à écouter, apprendre à travailler, à se concentrer. Et il faudrait vraiment revenir à des fondamentaux comme cela. C'est ce que pensent énormément d'enseignants. Et on continue à les torturer avec toujours des finasseries pédagogiques. Et je pense que le gros problème n'est pas là.
Merci.
Alors,
pardon.
Il serait souhaitable que les classes ne soient pas trop chargées, qu'on puisse effectivement avoir des groupes, on va dire, à taille humaine, compte tenu des difficultés, voilà, de nombreux élèves, effectivement, dans les apprentissages, la lecture, etc. Mais donc revenir à quelque chose de fondamental, on entre en classe, c'est pour travailler, c'est pour réfléchir, c'est pour se concentrer.
Merci beaucoup Isabelle, merci pour cette entrée en matière et pour cette discussion qu'on va tous avoir autour de cette table jusqu'à 20h. Il y a Najat Vallaud-Belkacem qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous êtes directrice de l'ONG One. Il y a Sophie Benetité, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de SES, vous êtes secrétaire générale du SNES FSU. Et Olivier Beaufrère, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire national éducation et pédagogie au SNPDEN, UNSA. Il y a une chose que je retiens... On va commencer ce tour de table là-dessus, de ce que nous dit Isabelle. Revenir aux fondamentaux, elle dit, et elle dit aussi, trêve des réformes. Et je trouve ça intéressant parce qu'elle n'est pas toute seule. On a un auditeur aussi qui nous a envoyé un message en disant, au moins, cette valse de ministre, ça nous donne au moins ça. On n'a pas la grande réforme en face de nous. Qu'est-ce qu'on pense de cette remarque, Najat Vallaud-Belkacem ? Trêve des réformes, ça veut dire, il y en a tellement eu qu'on est perdu. Donc au moins, il n'y a plus ça.
Oui, moi je la comprends. Alors ça va vous paraître surprenant parce que vous allez vous dire mais vous avez été ministre et vous en avez mené, mais j'en ai mené tout en faisant très attention par exemple à ne pas venir re-réformer des choses qui venaient juste d'être réformées avant même qu'on ait évalué la pertinence de ce qui avait été fait avant moi. Et ça je remarque que c'est rare, que généralement lorsqu'un nouveau ministre arrive, même s'il ne reste que 2 mois dans son ministère, on l'a vu par exemple avec Gabriel Attal et le choc des savoirs, il a cette volonté réformatrice qui préside tout et dont on a le sentiment qu'en fait il se contrefiche un petit peu de ce que cela advient. D'ailleurs, le choc des savoirs, cette réforme que vous évoquiez tout à l'heure, on a l'impression que c'est un poids lourd maintenant qui doit être porté par les ministres successifs.
C'est la patate chaude des différents ministres, une espèce de patate chaude
qui n'ont pas vraiment la notion de pourquoi c'était important de faire ces mesures-là, qui sont d'ailleurs rejetées par l'essentiel du corps enseignant et à raison. Mais voilà, ça devient comme une espèce d'idéologie. Donc la réforme pour l'idéologie, je comprends qu'elle soit rejetée par les enseignants.
On va y venir évidemment au choc des savoirs. Sophie Vinetité, c'était Michel Barnier, quand il est arrivé, qui avait dit, je crois que c'est qu'il a eu cette phrase l'éducation nationale a besoin évidemment qu'on y travaille, mais elle n'a pas besoin de grandes réformes. Est-ce qu'on se dit qu'on est à peu près sur une ligne qui est similaire, et que si cette ligne dit ça, ça dit effectivement également un ras-le-bol au fond chez les enseignants de chaque ministre qui arrive et qui invente quelque chose de nouveau, probablement pour y lisser sa patte.
Oui, il y a un profond ras-le-bol chez les enseignants aujourd'hui, un profond épuisement des zigzags incessants de la politique éducative, parce que ça fait quand même au moins 2 ans que chaque ministre qui arrive nous dit soit qu'il veut faire une réforme, soit qu'il ne veut pas en faire, mais il en fait quand même, pour pouvoir effectivement laisser son nom dans l'histoire du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est un véritable zigzag, c'est-à-dire qu'on peut nous dire, avec Gabriel Attal, il y a le choc des savoirs, on peut avoir Nicole Belloubet qui dit bah oui, mais peut-être on va avoir le choc des savoirs, et puis après il y a Anne Genetet qui nous dit je vais faire un acte 2 du choc des savoirs. Et au milieu de tout ça, au milieu de toute cette communication politique, au milieu de toute cette frénésie, bah, y a les enseignants et il y a les élèves. Et on a un peu trop tendance à l'oublier. Nous, on a besoin aussi de stabilité, on a besoin de pouvoir se poser, et surtout on a besoin, comme le disait l'auditrice, de pouvoir se poser sur l'essentiel de ce qu'est notre mission, c'est-à-dire effectivement transmettre, c'est-à-dire faire grandir les élèves, les élever intellectuellement. C'est quand même pour ça qu'on a choisi de devenir enseignant, et pour que nos élèves puissent le faire ensemble. Et en fait, ce qui est le cœur de notre métier, ça fait au moins 2 ans qu'on ne peut plus le faire.
Ce que nous dit notre auditrice aussi, Olivier Beaufrère, et finalement quand elle nous dit « revenons aux fondamentaux, s'asseoir dans une classe, se concentrer, apprendre », c'est que, est-ce qu'on a oublié les fondamentaux, avoir trop de grandes idées, est-ce que vous le pensez ou pas, hein ?
On n'a pas vraiment oublié les fondamentaux, ce qui est très clair, et il y a un point que je reprendrai, c'est la stabilité. C'est très clair, on a aujourd'hui besoin d'un cap. Un cap qu'on doit tenir, un cap tenable. Y a trop d'incertitudes, il y a trop d'attentes, il y a trop d'instabilité. Mmh. Et là, on ne sait pas comment on va piloter. Et là, actuellement, dans 15 jours, on prépare la rentrée de septembre 2025. Mmh. Et la question, c'est, qu'est-ce que l'on peut faire ? Est-ce qu'effectivement, le choc des savoirs 1, 2 devient le choc des savoirs 3 ? Est-ce qu'on l'évalue ? Est-ce qu'on sait précisément ce qui s'est passé ?
Théoriquement, vous deviez l'évaluer maintenant, d'ailleurs, non ? Mars-avril, le choc des savoirs 6e-5e.
Il y aura une évaluation qui aurait été déjà plus ou moins débutée, qui sera en attente. Madame la ministre a annoncé hier une première évaluation en mars, une deuxième évaluation en juin. Mmh. Effectivement, elle sera trop tard. Il va falloir qu'on rentre déjà des premiers éléments sur comment préparer cette rentrée. Il y aura après le mouvement des enseignants à construire. Il sera trop tard, donc laissons peut-être un petit peu d'autonomie, un petit peu de place aux établissements, aux équipes pédagogiques, et puis on verra effectivement si on peut avancer.
Puisqu'on a mis les pieds dans le plat, Najat Vallaud-Belkacem, est-ce qu'on renonce au choc des savoirs ? Est-ce qu'on renonce, ou au moins en tout cas, à certains aspects de la fameuse réforme du choc des savoirs, ou pas ? Est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau du bain ? Est-ce qu'il y a des choses à garder ?
Je pense que vous m'avez invité pour que je vous dise les choses, franchement.
Dites-moi les choses, je vous en prie.
Très franchement, je pense que cette réforme a été adoptée pour de très mauvaises raisons, vraiment. Parce qu'il s'agissait de la façon la plus rapide et efficace possible de se faire un nom pour celui qui l'a porté à ce moment-là.
Gabriel Attal, en l'occurrence.
Gabriel Attal, sans aucune concertation avec les enseignants, avec les personnels de l'éducation, avec une vision de ce que doit être l'éducation aujourd'hui qui est complètement à côté de la plaque, parce que le sujet, au fond, ce dont on a besoin, c'est pas de toujours plus de compétition. Rappelez-vous ce que contient cette réforme. Elle contient les groupes de niveau, elle contient le brevet qui devient un examen
besoin,
de passage.
Hein, c'est comme ça qu'on les a appelés.
Voilà. Le brevet qui devient un examen de passage, qui peut vous empêcher d'aller au lycée général. Je dis général parce que quand vous ne l'avez pas, en revanche, on vous dit par contre, vous pouvez aller au lycée professionnel, n'est-ce pas ? Bon, tout ce que contient cette réforme, c'est ça n'apporte aucune réponse à comment faire mieux réussir l'ensemble des élèves, qui est quand même la seule question qui vaille quand on s'intéresse à l'éducation. Comment mieux prendre en charge les difficultés des élèves en temps utile, les faire progresser le mieux possible, lutter pour avoir une démocratisation scolaire qui se fait toujours attendre, la démocratisation de la réussite scolaire. Et en fait, tout ce que contient cette réforme du choc des savoirs, à chaque fois, c'est du séparatisme un peu plus poussé.
Mais les fameux groupes de niveau, par exemple, est-ce qu'on dit que c'était mal fait? Ça part d'une bonne idée, mais c'est mal fait, c'est mal agencé, ça a été mal mis en place, c'est donc trop rapide? Ou est-ce que l'idée, malgré tout, quand même, d'essayer de prendre en charge les élèves qui sont les plus en difficulté, on la garde?
Mais c'est faux, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est pas comme si, dans cette réforme, avait été inventée, avec les moyens qui iraient avec, une solution pour les élèves en difficulté. La seule chose que prévoit cette réforme, c'est de mettre de côté, de se débarrasser d'eux, des élèves en difficulté. Et ça vaut pour les groupes de niveau, comme pour cette histoire du brevet qui devient un passage obligé pour pouvoir passer au lycée. Personne ne se pose la question de, mais du coup, alors les élèves qui n'ont pas le brevet, qu'est-ce qu'ils deviennent, en fait? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'on nous a vendu une espèce de sas. Ben, il faut s'adresser aux enseignants, peut-être qu'ils répondront encore mieux que moi.
La fameuse seconde, on va y venir, l'espèce de seconde d'entre-deux qui a existé, qu'on peut faire perdurer, qui a du sens ou pas du tout?
Non, mais c'est
pour expliquer aux gens qui nous écoutent, effectivement, donc l'idée pour les élèves dont on estime qu'ils n'ont pas le niveau, en fait, pour rentrer en seconde après le brevet des collèges, on leur dit il y a une seconde de sas, en quelque sorte. Sorte avant d'entrer réellement au lycée.
Il y a ce qui, dans le choc des savoirs, est appelé une classe prépa seconde, parce qu'il a fallu lui donner un nom un peu pompeux pour faire croire que c'était quelque chose d'important. Et en réalité, alors c'est expérimenté, là, sur cette année 2024-2025.
Combien de fois, par exemple, pour que ça ait un sens, il faut que ce soit expérimenté un certain nombre de fois?
Là, c'est expérimenté sur un établissement par département.
D'accord, voilà. Ok.
Et le premier bilan qu'on peut en faire, parce que le ministère a beaucoup de mal à faire des bilans, mais nous, on en fait, c'est que d'une part, ces classes prépa seconde, elles n'ont pas fait le plein, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas trouvé un écho auprès des familles, et que ça sert, en tout cas tel que c'est conçu et tel que ça se met en place, d'abord à construire une voie de relégation, c'est-à-dire à écarter les élèves de la scolarité au lycée, et donc quelque part à leur dire, à envoyer le message, tu n'as pas ta place au lycée. Et au-delà de ce que ça veut dire d'un point scolaire, il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire aussi pour notre école et pour notre société. C'est-à-dire que le choc des savoirs, à travers la classe prépa seconde, à travers les groupes de niveau, il construit ni plus ni moins qu'une école du tri.
Mais donc on jette tout,
Sophie, sur le choc des savoirs, il faut effectivement tout jeter. Enfin, nous là-dessus, au SNES, on est très clair. C'est quand même une réforme systémique qui vise à organiser un tri des élèves et ce faisant à complètement changer ce que doit être l'école. Et au-delà de la question éducative, enfin, d'un point de vue démocratique, c'est très grave quand même, d'un point de vue social, de se dire qu'on a une école qui, comme ça, va aggraver le tri et la sélection des élèves, d'autant plus que ça ne répond pas aux enjeux premiers, ça ne répond pas non plus à ce qu'on demande pour mieux faire réussir nos élèves. Parce que bien évidemment qu'au quotidien, on voit que nos élèves sont en difficulté. Mais c'est pas comme ça qu'on va pouvoir les élever et les faire grandir. Et je note que personne, ni Gabriel Attal, ni Anne Genté, ni Amélie Oudéa-Castéra, enfin je vais pas faire la liste parce qu'elle est longue, mais personne n'a par exemple évoqué la question de la diminution des effectifs dans les classes. À part notre auditrice.
Olivier Beaufrère, vous disiez effectivement qu'il devait y avoir une évaluation au mois de mars et puis peut-être au mois de juin. Et malgré tout, quand on a les deux mains dedans, comme vous tous, on a une idée quand même de ce que ça a donné pour démarrer. Est-ce qu'on dit ça a raté, c'est un plantage? Est-ce qu'on se dit il y a quand même un certain nombre de choses qui ont pu fonctionner et qui sont mal amenées et qu'on peut essayer de réadapter? Donc on jette pas mais on amende.
L'idée d'accompagner, de faciliter, d'aider, de créer d'autres dispositifs, c'est une idée qui est intéressante pour faire réussir les élèves. Maintenant, le peu de moyens que nous avons eus pour mettre en place ce choc des savoirs, laissons-le peut-être à la main des établissements scolaires, des communautés éducatives, des équipes pédagogiques, et en fonction des spécificités du territoire, du champ des possibles, eh bien peut-être se dire que sur tel établissement on peut aider de telle manière, sur tel autre établissement on peut aider de telle autre manière, mais imposer comme c'est imposé aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, il faut être extrêmement clair.
Ça veut dire que l'idée de l'étendre, là on est 6e, 5e, 4e, 3e, je vous vois faire non avec la tête, je vois tous faire non avec la tête.
C'est complètement impossible, on a déjà touché aux marges d'autonomie des établissements, on n'aura pas les moyens pour le faire, et on n'aura pas aussi la RH, les enseignants. Ça, c'est inquiétant.
Didier est à Nîmes. Bonsoir, Didier.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je voulais demander à Mme Belkacem pourquoi les différents ministres de l'Éducation nationale qui se sont succédés, dont elle, n'ont jamais voulu remettre en cause les services des enseignants. Je suis retraité enseignant. J'ai enseigné en lycée principalement, en tout début de carrière en collège, et je n'ai jamais compris pourquoi on ne demande pas aux enseignants aujourd'hui de faire une vingtaine d'heures d'enseignement en lycée et en collège, et 4 ou 5 heures de présence dans l'établissement pour être au service des élèves, éventuellement des parents qui n'ont souvent que des réunions tardives pour rencontrer les professeurs et pour avoir aussi quelques temps pour leur travail personnel. Ça permettrait peut-être, dans un premier temps, de diminuer le nombre de postes nécessaires, puisqu'aujourd'hui, je suppose que les gens qui nous écoutent le savent, les agrégés ne doivent que 15 heures, les certifiés 18 heures. Il y a un certain nombre de gens qui font des heures supplémentaires. Tout le monde dit que les élèves doivent être au centre du système, et j'ai bien l'impression que souvent, même en vous écoutant dans cette émission, on a toujours l'impression que les syndicats enseignants, je vais me faire des ennemis, défendent leurs intérêts, mais ne défendent pas l'intérêt de l'élève.
On a entendu, Didier, on voudrait qu'on laisse les gens autour de cette table répondre. Ce que nous dit Didier Najat Belkacem, c'est on n'a jamais mis les pieds dans le plat, en fait. Et les pieds dans le plat, c'est toucher aux heures. Je vois la tête de Sophie Finetité, mais je vous écoute d'abord, Najat Belkacem.
Non, mais d'abord, c'est pas la première fois que j'entends ce propos, donc ça veut dire qu'il y a une espèce de mythe ou en tout cas de récit comme ça qu'ont beaucoup de gens dans la tête.
C'est le mythe qui dit qu'on travaille pas assez quand on est enseignant.
Selon lequel ce serait très différent si on avait des enseignants qui, ayant fini leurs heures de cours, seraient présents dans l'établissement et au contact et au service des élèves. Et je pense que c'est une vision un peu à l'anglo-saxonne qu'ils ont dans la tête, parce qu'on voit ça sur les campus américains par exemple. Mais en fait, on fonctionne juste pas comme ça du tout. Nos établissements ne sont pas équipés pour avoir des salles de bureaux où les enseignants pourraient tranquillement recevoir des parents. Et la vérité, c'est que tout ça rejoint quand même ce procès fait en permanence sur « ils ne travaillent pas assez », et dont je rappelle souvent qu'en moyenne, en France, les enseignants travaillent 43 heures par semaine. Enfin, c'est peut-être, je le dis devant vous pour que vous me corrigiez si besoin, mais je pense que ça, c'est méconnaître. Alors, monsieur disait qu'il était lui-même ancien enseignant, mais en tout cas, ceux qui relaient ce procès-là, et on l'a vu notamment dans la bouche d'un ancien président de la République.
C'était Nicolas Sarkozy, il n'y a pas si longtemps. Ouais.
Voilà, qui est très occupé avec son procès, mais qui a quand même le temps, de temps en temps, de lancer des saillies contre les enseignants. Ceux qui relaient ce genre de discours n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que de corriger ses copies, que de préparer ses heures. Et surtout, détournent, encore une fois, fondamentalement, nos regards du vrai enjeu pour l'éducation d'aujourd'hui. Et le véritable enjeu, moi, je le redis, hein, nos enfants, nos élèves ne grandissent pas dans le même monde que celui que nous avons connu, vraiment. Et ce monde a été totalement chamboulé ces 15 dernières années. La place des écrans en particulier, la place de la désinformation, le relativisme ambiant. Il faut se rendre compte que nos élèves doivent être accompagnés d'une façon extrêmement différente. Et que ça, c'est la question de la formation des enseignants, bien plus que celle du temps en question, que c'est la question des autres personnels non enseignants qui ne sont pas en nombre suffisant dans les établissements, puisqu'on veut parler de présence adulte dans les établissements. établissement, a-t-on suffisamment de psychologues scolaires, par exemple, ou d'infirmières, ou d'assistants sociaux? Ça, c'est les vrais sujets pour moi.
Formation, on y reviendra à la formation, et puis surtout, comment faire en sorte qu'il y ait suffisamment de profs qui soient formés, suffisamment de jeunes gens qui aient envie surtout d'y aller. Pour l'instant, c'est pas le cas. Un mot quand même, Sophie Vinetité, sur ce que nous dit notre auditeur Didier, parce que cette petite musique, elle existe, et on l'entend. Lui, il nous dit qu'il est ancien enseignant, donc il sait aussi de quoi il parle. Cette musique, elle existe, beaucoup de gens le croient. Comment on fait pour adresser cette question-là et peut-être même, oui, réfléchir aussi aux heures après tout. Ou est-ce que c'est un tabou? On n'y réfléchit pas.
Non, c'est pas un tabou. On peut déjà commencer par dire quels sont les faits, quelle est la réalité. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, être enseignant, en tout cas en collège et en lycée, c'est assurer des heures devant les élèves et c'est aussi après tout un temps de préparation, de suivi des élèves, de réunions, etc. Et qui montre qu'effectivement, aujourd'hui, les enseignants travaillent en moyenne 43 heures par semaine, travaillent pendant une partie de leurs vacances. Donc les enseignants font leur travail. Enfin, je veux dire, il faut quand même le rappeler, aujourd'hui, les enseignants font leur travail et je dirais même que ce sont eux qui tiennent l'éducation nationale aujourd'hui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'éducation nationale, elle tient quasiment uniquement grâce à la conscience professionnelle des personnels de l'éducation nationale. C'est ça, aujourd'hui, la réalité. Donc, aujourd'hui, les enjeux auxquels on est confrontés, c'est pas une question de nombre d'heures qu'on peut faire ou autre. Aujourd'hui, la question, c'est déjà, est-ce qu'on arrive à mettre un professeur devant chaque classe tout au long de l'année? Est-ce qu'on arrive à avoir les équipes pour suivre les élèves, et notamment les élèves qui sont en difficulté? Toute la discussion autour du statut, autour du nombre d'heures, etc., ça sert souvent à agiter un espèce de chiffon rouge pour essayer de traiter ce qui n'est pas un problème, mais de le traiter comme ça pour pouvoir ne pas s'occuper des autres problèmes qui sont fondamentaux. Parce que pendant qu'on nous dit qu'on ne travaille pas assez, que ceci, cela, et ben on ne s'occupe pas d'une éducation nationale qui est aujourd'hui en train de s'effondrer. Enfin, il faut être très clair.
Dans ce que disait Najat Vallaud-Belkacem, Olivier Beaufrère, il y a l'histoire de la formation. On a bien vu au dernier concours, enfin très clairement, il manquait un peu plus de 3000 candidats au sortir du... Enfin, candidats et donc de jeunes gens qui sortent professeurs. Est-ce que l'une des clés, c'est aussi, quand on change la formation, c'est d'aller la chercher peut-être vers des choses qui parlent plus à l'époque, le numérique et autre chose? Comment on fait pour de toute façon qu'il n'y ait pas ce trou-là? Parce qu'on pourra toujours dire il faut plus de profs, il faut plus d'effectifs, il faut que les classes soient moins importantes, mais s'il n'y a personne en face, parce qu'il n'y a personne au concours, on tourne en rond.
La problématique, c'est l'attractivité.
Est-ce que c'est que le salaire, l'attractivité?
Alors, c'est pas forcément que le salaire, enfin, je veux dire, et c'est pas non plus un problème uniquement français, hein. La plupart des systèmes éducatifs internationaux rencontrent des difficultés de recrutement. Moi, je vais pas être seulement sur les enseignants, je vais être sur l'ensemble des personnels, effectivement, l'éducation nationale. On a des vrais manques, on a des postes découverts, on travaille toujours à flux tendu, et de plus en plus, on fait appel à des personnels, ils sont des personnels contractuels, alors c'est toujours une variable pour permettre le fonctionnement.
Oui, bien sûr,
oui. Pas forcément formés, pas toujours accompagnés, ils arrivent sur le terrain. On a aussi énormément de personnels aujourd'hui qui démissionnent, qui partent faire autre chose, et ça, c'est véritablement inquiétant.
Mais comment on les retient alors? Comment on fait pour les retenir?
Il n'y a pas que l'attractivité du salaire. Il y a également peut-être les conditions de travail. Il y a également mieux communiquer, mieux présenter et puis s'adapter aussi à notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nos enseignants sont parfois des jeunes et qui, au bout de 5, 6, 7 ans, partent faire également autre chose. Donc c'est aussi une forme de richesse, certainement, mais il faut qu'on arrive à
recruter. Moi, je me souviens, mais je me souviens dans le dernier rapport PISA d'un des chiffres qui m'avait vraiment marqué. 4% de mémoire des professeurs du premier degré se sentent valorisés dans la société. Hein, c'est cette question de leur statut, et 7% des professeurs du second degré. Donc c'était absolument dramatique.
Comment on les regarde, en fait?
Comment on les regarde, il faut comprendre que de qui ça vient, en fait. C'est qui on les regarde? On a parlé tout à l'heure d'un ancien président de la République, pardon, mais ça impacte, hein, ce genre de choses, de prétendre que les professeurs travaillent 6 mois par an. On pourrait parler aussi d'une forme, de la part des parents, d'esprit de consommation, on va dire, de l'école, de ce qu'elle a à offrir rire et parfois même de brutalité de la part de parents, et ça, il faut le dire. On pourrait parler du prof bashing auquel on assiste sur beaucoup de médias à longueur de journée. Donc, je pense que c'est tout ça, le statut social, en plus, évidemment, du salaire.
On va retourner au standard dans un instant. Je voudrais juste soumettre à votre sagacité cette remarque d'Agathe sur WhatsApp qui dit ceci: mais comment créer des vocations? Ma fille, en troisième, n'a pas pu faire son stage à l'école publique parce qu'on ne prend pas de stagiaire à l'école publique, donc on a été obligé de se rabattre sur une école privée. Je trouve que c'est intéressant parce que pour voir effectivement comment ça se passe à l'intérieur, dans le vrai boulot du prof après, pour une élève de troisième, ce serait sûrement passionnant. J'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre de difficultés. On est en train de parler d'éducation ce soir dans le téléphone sonne. On a un parent d'élève qu'on attendait sur cette antenne avec Eric. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir.
On est content d'entendre les parents, allez-y.
Écoutez, merci de prendre ma question. En fait, moi, je voudrais proposer un choc de bon sens. Je m'explique. Aujourd'hui, on parle donc des enseignants, des élèves, mais très peu finalement des parents. Je suis désolé, je m'entends en écho, donc c'est un peu compliqué.
Ah, je suis désolé pour vous. Je ne sais pas quoi faire pour vous, si ce n'est que...
Non, mais je continue, pardonnez-moi.
Voilà,
c'est un peu compliqué. Du coup, il faut rajouter, je pense, cette fameuse troisième branche, le troisième pied à ce débat. Tout vient de la notion de la communication des enseignants envers les étudiants et les parents. Il y aurait probablement moins de bashing, il y aurait plus de compréhension, il n'y aurait pas tous ces débats sur les heures entre le système éducatif et notamment les parents, il y avait une communication, et je ne parle pas d'une communication très formelle qui est imposée par le ministère, mais plutôt d'une communication informelle. Mmh. On dispose d'outils aujourd'hui, du WhatsApp, des mails, et je pense que chaque enseignant doit être en mesure à un moment donné de pouvoir communiquer auprès d'un parent sur un élève en difficulté, sur un élève qui pose problème en classe, pour garder ce lien et permettre qu'il y ait une communication globale sur ce triptyque parents, enseignants et élèves.
Merci beaucoup Eric, merci pour votre message. Olivier Beaufrère, utilisez aussi les moyens modernes, si je puis dire, pour remettre les parents au centre du jeu.
On a quand même énormément progressé depuis pratiquement une dizaine d'années. Hein. Mmh. On a aujourd'hui
visiblement, on peut mieux faire.
On peut toujours mieux faire. Hein, ça, c'est une certitude. On a quand même des espaces numériques de travail. On a un grand nombre quand même de réunions, de présentations, de communications. Alors les WhatsApp, on nous dit d'être un peu vigilant. Voilà, mais ça, on est d'accord. Mais globalement, on a des messageries, on a un grand nombre de mails. Enfin, je pense que l'information circule suite à la Covid, on a quand même beaucoup plus utilisé finalement le lien des réseaux. Donc on a encore du progrès, c'est sûr, mais on a quand même progressé.
Ce que nous dit notre auditeur, Sophie Finetité, madame la professeure, là pour le coup, pas la syndicaliste, c'est remettez les parents au milieu, en fait. Remettez les parents au centre du village. Alors j'imagine que pour certains c'est plus compliqué et qu'il faut aller les chercher par le col. Mais précisément, peut-être qu'il faut aller les chercher par le col et que c'est par ces moyens-là qu'on arrive à aller les chercher. Qu'est-ce que vous en dites ?
Oui, alors en tant qu'enseignante, je peux vous dire que des fois, je me sens très seule dans les réunions parents-professeurs. Ouais. Ça m'est arrivé de faire des réunions parents-professeurs de rentrée. Vous avez 4-5 parents d'élèves. Mm-hmm. Je ne leur jette absolument pas la pierre parce que je sais aussi quels peuvent être les obstacles pour venir dans ces réunions, pour saisir aussi tout ce qui se joue. On a essayé de développer un certain nombre de choses, effectivement d'aller vers les parents d'élèves, soit par des échanges collectifs, soit par des échanges individuels. Force est de constater qu'on n'arrive pas forcément à voir tous les parents d'élèves. C'est certain qu'il y a un effort à faire pour associer les parents d'élèves et faire comprendre qu'il se joue quelque chose d'important, c'est tout simplement l'avenir de leurs enfants. Après, il faut aussi trouver la juste place des uns et des autres. Ne pas oublier que, bien évidemment, on a besoin des parents d'élèves pour passer un certain nombre de messages sur la scolarité de leurs enfants, mais les parents d'élèves, par exemple, n'ont pas à nous dire quels doivent être les programmes de l'éducation nationale. Ils n'ont pas à nous dire ce qu'on doit enseigner, ouais. Parce qu'on sait qu'il y a aussi parfois cette tentation de la part de certains parents d'élèves. Et là, on déborde quand même de ce que doit être la relation entre professeurs et parents d'élèves.
On a nos auditeurs, un certain nombre en tout cas, qui veulent revenir sur le brevet. Il y a une question qui est pour vous, Najat Vallaud-Belkacem, elle vient de Dominique sur WhatsApp et qui dit: pensez-vous vraiment qu'un élève qui n'a pas son brevet a le niveau pour aller en seconde générale?
Je pense qu'il faut comprendre d'abord que le brevet n'était pas là, n'est pas là aujourd'hui tel qu'il fonctionne pour sanctionner le niveau que vous atteignez. Sinon, il devrait être conçu complètement différemment. Aujourd'hui, en fait, c'est un rite de passage, le brevet. Et donc, on va s'appuyer sur ce qui est un rite de passage et dont il faut voir ce que ça évalue exactement, qui n'est pas exhaustif par rapport à la scolarité acquise tout au long de ces années au collège.
Ce que je comprends de ce que dit Dominique, c'est qu'au fond, les gens qui potentiellement échoueraient à un examen, si on remettait un examen, sont les mêmes que ceux qui, de toute façon, seraient réorientés après leur troisième, parce que, même en contrôle continu, les notes sont pas suffisantes.
Non, franchement, enfin... Je pense que souvent dans le débat public sur l'éducation, tous ceux qui sont tentés par le tri précoce, etc., omettent complètement de prendre en compte ce que c'est que l'estime personnelle d'un enfant et ce que ça construit de sa trajectoire à venir. Vous voyez, la trajectoire d'un enfant, elle n'est quand même pas gravée dans le marbre en fonction des résultats qu'il a eu en maths ou en français à l'âge de 6 ans ou à l'âge de 11 ans. On est d'accord avec ça. Si c'était votre propre enfant, vous le comprendriez très vite. Bon, ben, si on est d'accord avec ça, si on juge qu'un enfant est éducable, que même si à un temps T, il est en mauvaise posture parce qu'il n'a pas compris telle ou telle chose... néanmoins il peut les comprendre plus tard, alors il faut le pousser et il faut pas le bloquer.
Mais donc tout le monde en filière générale, c'est pas viable non plus, et d'ailleurs vivent les filières techno quand on est
encore en filière générale. Mais pas tout le monde en filière générale. Non, mais moi je suis pas pour tout le monde en filière générale, je suis pour qu'aillent en filière générale ceux qui veulent s'orienter en filière générale et qu'aillent en filière professionnelle ceux qui veulent, etc. Je suis pour le choix de l'orientation, je suis contre l'orientation subie, et je suis pour que en effet à l'âge de 11 ans, parce qu'on parle de gamins de 11 ans, eh bien on explique pas à un gamin que, en fait, son chemin est tout tracé et que c'est forcément une barrière qui l'attend, compte tenu des résultats qu'il aurait eu. Et encore une fois, le brevet n'est pas là pour évaluer de façon exhaustive toutes les compétences de l'enfant. D'ailleurs, ce qui est remis en question à travers cette réforme qu'a voulu Gabriel Attal, c'est la notion même de compétences qu'on acquiert, puisque, en fait, lui, il veut que ne soient évaluées à ce moment-là que des connaissances. Et donc, ça veut dire que le devenir qui se construit de l'enfant, lui, n'est pas du tout pris en considération. Donc oui, moi je considère que ça n'est pas à cet âge-là qu'il faut bloquer les élèves. Et j'allais vous dire, cette compétition précoce, au fond, c'est pour moi la continuation de la réforme Parcoursup, d'une certaine façon, de plus en plus tôt. En fait, j'ai l'impression que toutes les réformes qui ont été conduites depuis 2017 ont eu vocation à mettre du tri et de la sélection de plus en plus tôt dans le parcours, et donc de la tension. Et donc de la tension avec les parents, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la raison pour laquelle les parents sont dans cet état de tension permanente envers l'école, c'est aussi parce que les règles et les règles, c'est pas du fait des professeurs, c'est du fait des politiques publiques. Ils les comprennent de moins en moins. Ils comprennent juste qu'il y a de la compétition à tous les étages et qu'il faut qu'ils se battent pour leur enfant.
Je ne sais pas si on a Jean-Charles en ligne. Est-ce qu'il est là, notre ami Jean-Charles? Ce serait bien si on... visiblement non, je croyais qu'il suffisait d'un switch, mais vraisemblablement... Ah bah voilà, le voilà Jean-Charles, merci beaucoup. On vous écoute, bonsoir Jean-Charles.
Ouais, excusez-moi, j'ai un double appel, je m'excuse. Pardonnez-moi.
Vous en prie, faites comme à la maison. Allez-y Jean-Charles.
Oui, bonsoir tout le monde. Bah écoutez, la question est toute simple, en définitive... Je m'interroge, comment les professeurs peuvent-ils se décharger de toute responsabilité quant à la baisse de nos élèves en France? Enfin bon, les tests internationaux d'évaluation des élèves sont catastrophiques pour la France. Bon, il semblerait, à écouter les uns et les autres, Madame Vallaud-Belkacem, semble-t-il, dédouane totalement les professeurs. Bon, j'entends. Mais j'ai une analogie à vous présenter.
Rapidement, comment, si vous le voulez bien, Jean-Charles.
Oui. Comment un cuisinier pourrait être étranger de la piètre qualité des repas qu'il servirait? Voilà.
On a compris l'analogie, Jean-Charles. Merci beaucoup. Najat Vallaud-Belkacem ne pourra pas vous répondre parce qu'elle a dû partir plus tôt. C'était prévu comme ça et on la salue, on la remercie. Mais Sophie Vénétité, comment est-ce qu'on répond à notre ami Jean-Charles?
D'abord que les enseignants ne se dédouanent pas de ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation nationale. Mais moi, je le dis souvent, quand on est professeur, on est on n'est ni un héros, ni un lâche.
Non,
en
non.
Fait.
Et puis, il y a de très bons profs, il y a de mauvais profs.
Un professeur, mais ni un héros, ni un lâche. Il est un professeur, il est un fonctionnaire de l'éducation nationale, et il est mis dans certaines conditions pour faire son emploi et pour faire son métier. Et ces conditions-là, elles relèvent du ministère de l'Éducation nationale. L'analogie avec le cuisinier, moi je veux bien, mais si le cuisinier, on le met dans une cuisine où il n'y a pas d'éclairage, où il n'y a pas d'électricité, et on lui donne des ingrédients qui sont complètement qui n'ont plus lieu d'être, et des outils qui sont complètement
dépassés. Pardon, l'analogie n'est pas bonne en fait.
Je pense que l'analogie, aujourd'hui, dans quelles conditions on nous met pour faire réussir nos élèves? Et on nous met face à des élèves qui sont effectivement peut-être différents d'il y a 15 ans, qui ont plus de difficultés, et on nous met dans des situations où en fait il est difficile de faire son métier. Moi j'entends de plus en plus de collègues me dire mais on est dans une situation de métier empêché. Et surtout, aujourd'hui, moi ce que je voudrais qu'on entende, c'est que aujourd'hui les enseignants sont malades d'aimer leur travail. C'est-à-dire qu'on aime notre travail, mais la situation dans laquelle on nous met nous rend malade.
Moi, je voudrais comprendre, Olivier Beaufrère, qu'est-ce que ça veut dire que les élèves sont différents aujourd'hui d'il y a 15 ans? Et quand on dit même qu'ils sont plus difficiles, est-ce que le niveau est différent? Différent d'il y a 15 ans, ça veut dire quoi?
Je sors mon portable pour vous le montrer.
Je vous en prie.
Ça c'est le premier outil. Aujourd'hui, tout est immédiat, tout est instantané. Peut-être aussi que la notion du travail, de l'effort est certainement différente.
Mais du coup, ça nous ramène à notre première auditrice, souvenez-vous, qui nous parlait de concentration, d'apprendre, de s'asseoir. Donc en fait, c'est la boucle est bouclée, c'est le retour aux fondamentaux qu'il nous faut.
Alors, on peut l'appeler retour aux fondamentaux, c'est effectivement aussi voir que notre école a vraiment évolué. Il y a des demandes différentes, on demande pratiquement à l'école de gérer tous les maux de la société aujourd'hui. J'ai pour habitude de dire, on demande à l'école que les élèves apprennent à faire du vélo. Enfin, il y a quand même un moment où on peut rester sur le lieu des familles. Moi, je voudrais quand même revenir sur, au quotidien, tous les personnels de l'éducation nationale qui font un métier avec passion, avec envie, et qui sont là aussi pour le service public d'éducation. Et je pense qu'on l'oublie un petit peu facilement, malheureusement.
Les élèves différents, il nous reste peu de temps, mais il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Sophie Vénétité, vous enseignez depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce qu'ils ont, vos élèves, aujourd'hui, qui n'étaient pas les vôtres il y a 15 ans?
J'enseigne depuis 15 ans, donc voilà. C'est pile.
À quoi ressemblaient vos premiers élèves?
Mais les élèves ont pu changer
Parce que la question que je me pose, c'est est-ce que c'est les élèves qui ont changé, ou est-ce que c'est la manière de former les profs qui, elle, n'a pas changé? Et le problème, c'est bien celui-là.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'enseignant, on manque de formation continue, c'est-à-dire de formation tout au long de notre carrière. On a besoin de continuer à apprendre, parce que être prof au bout de 15 ans, être prof au bout de 20 ans, c'est pas la même chose que d'être prof en début de carrière. Et cette formation continue pour saisir ce que sont les élèves d'aujourd'hui, leur rapport à l'école, leur rapport au numérique, leur rapport à la société, leur rapport aux enjeux de société, leur rapport, par exemple, aux questions environnementales, toutes ces questions-là, et voir aussi que nos élèves sont le reflet des fractures de la société. Et moi, si aujourd'hui je vois une différence en 15 ans, c'est qu'effectivement, j'ai des élèves qui sont plus durement frappés par la crise sociale, et ça a eu des conséquences aussi, je dirais, sur leur socialisation et sur leur rapport à l'école. Et c'est ça aujourd'hui que ça a changé. Moi, je vois plus d'élèves aujourd'hui qui me disent « Mais enfin, madame, à quoi ça sert tout ça ?» Et qu'est-ce que je vais devenir? Regardez, j'ai vu mon grand frère, il n'a pas réussi. Ça, on me le disait moins il y a 15 ans. Et donc ça renvoie aussi, je dirais, à la responsabilité collective au-delà de l'école.
Et ce serait un autre téléphone sonne passionnant qu'on fera avec grand plaisir avec vous tous, bien sûr. Merci beaucoup, merci de vos nombreuses questions. Voici la question des petits bateaux, et ce soir c'est celle de Gaëlle.
Je voulais savoir si les agents secrets, ils pouvaient avoir des enfants. Au revoir.
Des enfants secrets, tiens. Allez, la réponse dans 3 minutes.